par bateau, principalement par le port de Québec et le port de Montréal. Les fournisseurs sont les États-Unis, parce que le pétrole canadien se rend aux États-Unis et retourne au Québec. Mais aussi, malgré le fait que ça a nettement diminué, le Québec doit acheter son pétrole de l'Algérie, de l'Arabie saoudite, du Nigeria, de la Norvège.
Il y en a encore beaucoup?
Non, c'est en train de diminuer, mais il y en a. Et le point est le suivant, 100% du pétrole que le Québec a besoin, que les Québécois ont besoin pour mettre de l'essence dans leurs autos, pour chauffer leur maison dans certains cas, pour être 100% canadien. Présentement, le défi du gouvernement albertain, ils nous regardent de loin et ils disent, comment est-ce qu'on peut s'adresser aux Québécois? Parce que eux, ce qu'ils voient, c'est que c'est zéro tolérance pour des pipelines. Ils veulent avoir une conversation, même au point où, comme tu sais, il y a des raffineries au Québec, une à Montréal, une à Lévis. Les raffineries, ça veut aussi dire du développement économique. Ça veut dire de l'argent pour le Québec. Donc, j'espère que le premier ministre Legault va prendre cette demande au sérieux. Et j'espère, comme je l'ai dit il y a plusieurs mois, que pour une fois, on peut avoir une conversation au lieu de crier des deux bords. Un bord qui dit pipeline à tout prix, l'autre bord qui dit pipeline jamais de la vie.
Est-ce que Mme Smith, la première ministre de l'Alberta, est devenue souverainiste?
La réponse à ça, c'est non. Et soyons clairs, nets là-dessus. Danielle Smith n'est pas une souverainiste, mais elle est claire. Si Ottawa n'écoute pas, un référendum sur la souveraineté de l'Alberta n'est pas exclu. Donc, présentement, ce que nous voyons, c'est que 30 à 40% des Albertains se disent ouverts à l'idée d'une séparation. Pas parce qu'ils veulent rompre, mais parce qu'ils veulent mettre un peu de pression sur Ottawa. Imagine si Ottawa avait fait échec et mat sur quoi que ce soit pour le développement du Québec, que ce soit l'hydroélectricité, par exemple.
D'un autre côté, si l'Alberta devenait souveraine, je vois mal comment elle pourrait développer des pipelines qui mèneraient vers l'océan Atlantique ou, dans une moindre mesure, vers l'océan Pacifique aussi, là.
Oui, mais à ce point-là, il n'aurait plus de réglementation de dire il y a un cap sur la production du pétrole. Il pourrait en produire davantage sans être bloqué à Ottawa. Il pourrait raffiner davantage au lieu de le vendre à rabais aux Américains et s'enrichir davantage.
OK. J'aimerais en terminer qu'on parle du Bloc québécois. Le Bloc a annoncé aujourd'hui que ses députés n'assisteraient pas au discours du trône là, que prononcera le roi Charles.
Je vais conclure en blague en partie parce que j'ai beaucoup d'amis bloquistes. Le paradoxe est le suivant. Ils refusent d'écouter le discours du trône prononcé par le roi Charles III, mais ils vont prêter serment au roi Charles III, comme bien sûr l'exige la loi pour siéger à la Chambre des communes. En passant, le discours du trône n'est pas livré à la Chambre des communes. Le discours du trône est livré au Sénat. Les députés n'ont pas accès au Sénat. Il y a une barre qui les empêche de rentrer sur le parquet du Sénat, mais certains, beaucoup de députés, choisissent de faire prendre une marche entre la Chambre des communes et le Sénat pour aller regarder de l'extérieur du Sénat. Je comprends ce que le Bloc veut faire, c'est-à-dire envoyer un message.
Ouais, et de toute façon, prêter serment sont un peu obligés s'ils veulent faire leur job de député, alors qu'à ce moment du trône, ils ne sont pas obligés.
C'est ça. Comme j'ai dit, comme la loi l'exige afin de pouvoir siéger.
Merci beaucoup, Dimitri.
Salut, Philippe.
On se retrouve demain. Valérie Beaudoin est là, au retour.
Électro, votre électricien de confiance à Rimouski, c'est l'endroit par excellence pour magasiner vos produits de chauffage, d'éclairage ou bornes de recharge. Avec les dernières pannes électriques, vous envisagez l'installation d'une génératrice à votre résidence ou chalet? Nous sommes dépositaires des génératrices Kohler au propane et sans odeur. Venez nous rencontrer sur la rue des Fabricants. Faites confiance à une équipe professionnelle pour des installations sécuritaires et fiables. Pour vos petits ou gros travaux, on pense toujours à Electro. 418-724-4433 ou le chèqueélectrique.com.
Ne manquez pas la 23e édition du Festival Country Western de Saint-Gabriel du 8 au 17 août. Spectacle, danse, rodéo, gymkhana, tir de chevaux et jeux pour enfants vous attendent. Profitez de l'expérience complète. Réservez maintenant votre forfait pour les deux fins de semaine. Bonne nouvelle, le forfait est en promotion jusqu'au 25 mai sur notre site web festivalsaintgabriel.com. Une invitation d'Electro 1983. Jack Ranch, SA Service Agricole et Construction Jalbert et Pelletier. Au plaisir de vous rencontrer du 8 au 17 août. Festivalsaintgabriel.com.
Ici David Proux, courtier immobilier résidentiel chez Via Capital Horizon. Fort de plus de 13 ans d'expérience dans la vente et les affaires à Rimouski, je mets maintenant mon expertise et ma connaissance du marché local à votre service. Que vous envisagiez d'acheter ou de vendre une propriété, je vous accompagnerai à chaque étape avec un service personnalisé et des conseils adaptés à vos besoins. Contactez-moi dès aujourd'hui au 418-740-2322 ou encore au info@commercial.viadavidpro.com. Ensemble, concrétisons dès maintenant vos projets immobiliers.
Vous recherchez une thermopompe efficace et une subvention pouvant aller jusqu'à 2 800 $ pour vous aider à vous la procurer? Chez Réfrigération RC, on a ça pour vous. Réfrigération RC, c'est l'endroit par excellence depuis plus de 25 ans pour vous préparer à l'été. En plus de tous nos produits qui assurent une diversité à nos clients, nous proposons des solutions de financement personnalisées afin de vous aider à être confortable dans votre maison et dans votre portefeuille. Appelez-nous dès aujourd'hui pour obtenir votre soumission. Réfrigération RC, 418-725-2472.
Vous cherchez un local idéal pour votre entreprise? Bien situé sur la rue Saint-Germain, en plein centre-ville de Rimouski, très accessible en avant ou en arrière avec une superficie de 1252 pieds carrés. Pour plus d'informations ou une visite, contactez Danny au 418-727-5960.
Votre entreprise est grande, Sente. Offrez-vous un système de téléphonie IP qui convient à votre réalité et à moindre coût grâce à Tactique Télécom. Travaillez d'où vous le souhaitez tout en restant connecté à votre entreprise. Vous avez besoin d'informer votre clientèle ou vos employés rapidement? Nous offrons le service d'installation de systèmes de sonorisation commerciale qui vous permettra également d'améliorer l'ambiance dans vos locaux. Envie d'en savoir plus? Communiquez avec nous au 418-721-7917 ou visitez le tactiquetelecom.ca.
La soirée de boxe Mont-Joli Chrysler, le samedi 10 mai 2025, à l'amphithéâtre Desjardins de Mont-Joli. 14 combats de boxe mettant en vedette des boxeurs talentueux de l'Académie de boxe BSL de Rimouski et d'ailleurs au Canada. Ouverture des portes à 18h30 et premier combat dès 19h30. Des sièges à partir de 20 $, des places ringside et des tables VIP sont disponibles. Billets en vente dès le 1er mars sur ticketaccess.net et Académie de boxbsl.com. Pour plus d'infos, 418-730-6914.
FM 93, toujours au courant. FM 93. Politique américaine avec Valérie Beaudoin.
Valérie, l'ancien président américain Joe Biden a accordé sa première grande entrevue.
Oui, première grande entrevue au réseau BBC. Alors, il y avait un angle aussi de fin de la Deuxième Guerre mondiale. On soulignait ça, on disait que Joe Biden, c'était le seul président toujours vivant qui a connu, mais il était tout petit, là, mais la Deuxième Guerre mondiale, qui était vivant au moment où avait lieu la Deuxième Guerre mondiale. Il est né en 1942. Alors, il y avait c'est très axé sur la relation avec l'Europe, la relation avec l'OTAN. Bien sûr, c'est la BBC. Alors, on parle justement des gens en Angleterre, mais bon, on s'entend que ça concerne le monde entier. Est-ce l'OTAN, l'importance des alliances d'autrefois. On a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup de la Russie. Il a dit l'avantage d'être vieux. Il dit c'est le suivant. Il dit, moi, là, ça fait 30 ans que je rencontre personnellement tous les dirigeants importants de la planète. Là, toutes les puissances, là, je les ai rencontrées. Là, que ce soit en Russie, que ce soit en Europe, en Asie, ailleurs, parce qu'on se rappelle qu'il a été aussi, lorsqu'il était sénateur sur le comité de politique étrangère des relations internationales, il a été vice-président sous Barack Obama et bien sûr président des États-Unis. Il dit, alors j'ai quand même, je pense, une perspective avec un pas de recul. Et là, ce qu'on fait avec la Russie, c'est qu'on est en train de lui donner un cadeau. On est en train vraiment d'avoir de ne pas prendre la bonne décision. Ce qu'on fait avec l'Ukraine, le fait qu'on affaiblit les organisations internationales. Il a commenté aussi la fameuse rencontre entre Zelensky et Trump. Là, sur l'image, il avait presque l'air de dormir, mais c'est parce qu'il réfléchissait à dire comment je réponds à ça, à cette scène qu'on a vue à la fin du mois de février. Et il a dit aussi que depuis la Deuxième Guerre mondiale, on est dans le moment de l'histoire où la démocratie est le plus en danger. Et que les États-Unis, avec leurs décisions, ne prennent pas, n'aident pas la situation. Je vais dire ça ici. Parler des 100 jours de Trump. Il a parlé du fait que là, il voyait pas de grande réussite. Et il a parlé, bien sûr, de son abandon de la course. Est-ce que vous regrettez? Est-ce que vous êtes parti peut-être trop tard? Les gens vous le reprochent. Et là, il hésitait, puis il a dit, ben, écoutez, je pense pas que ça aurait changé quelque chose. Je pense qu'on aurait eu quand même la victoire de Trump. C'est ce qu'il a dit. Mais on sentait quand même de l'amertume dans sa voix. Et je vais vous faire entendre Joe Biden, juste pour faire entendre aussi sa voix, je trouve qu'il a encore pris un petit coup de vieux. On le sait que c'était déjà très faible sa voix, mais il parle quand même, c'est intéressant dans l'extrait, vous allez entendre, il parle du fait que, comment ça, un président américain parle du Golfe de l'Amérique, du Groenland, du Canada. On écoute Joe Biden.
The way we talk about now that, well, it's just the Gulf of America. Maybe we're going to have to take back Panama. Maybe we need to acquire Greenland. Maybe Canada should be a fit. What the hell's going on here? What president ever talks like that?
Il dit, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Quel président peut parler comme ça?
Oui, puis c'était quand même des attaques assez directes à Donald Trump. Ça aussi, c'est particulier, juste pour expliquer aux gens...
On peut pas
dire
que Trump se gêne trop à l'endroit de Joe Biden. C'est jour après jour, il rappelle que c'est le pire président de l'histoire des États-Unis. Là.
Mais il y a toujours cette espèce de devoir de retenue qu'on a. Barack Obama, même quand Donald Trump est devenu président la première fois, c'était très rare. Hein? Et même Biden, de temps en temps, il l'appelait « this guy ». Il voulait pas le c'est nommer. Vrai. C'était moins frontal. Et là, dans cette entrevue-là, on était très direct. Hein. C'était vraiment ciblé sur Donald Trump. Est-ce que, comme tu as raison, tu as tout à fait raison de dire, Donald Trump est tellement en mode attaque envers Biden qu'il se dit peut-être, ben écoute, moi, j'ai rien à perdre. Oui, d'habitude, il y a une espèce de décorum autour des présidents, mais est-ce que je l'ai? Est-ce que j'ai le droit à ce décorum-là depuis toujours? La réponse est non. Alors ça, c'est l'entrevue. Et il va donner une entrevue à ABC News aussi ce jeudi. Alors, il est en mode tournée. Il a aussi signé avec une agence hein, pour faire des conférences et tout ça. Alors, le classique politicien qui écrit des livres, qui fait des conférences. Il est aussi dans une agence, on verra ce qu'il va faire.
Moi, je pense que c'est une bonne affaire qu'il reprenne un rôle public, mettre un peu de pression sur Trump. Il va en mettre parce qu'on reproche beaucoup aux démocrates d'être très, très silencieux depuis que Trump est arrivé au pouvoir, alors de voir l'ancien président s'exprimer. Il me semble que c'est une bonne chose. Oui. Il parle du Groenland dans l'entrevue et là, on a appris que c'est pas des blagues. Les États-Unis, là, ils sont rendus qu'ils espionnent le Groenland.
Oui, c'est une bombe du Wall Street Journal qui est sortie hier, si je me trompe pas, là, assez tard. On dit que c'est un document, on a mis la main sur un document, Tulsi Gabbard qui s'occupe justement des agences de renseignement, un autre personnage controversé, mais ce sera pour une autre chronique pour les gens qui s'intéressent un peu à elle. On a demandé d'espionner. En fait, oui, on utilise des images satellites et tout ça, mais c'est surtout pour savoir, OK, quelle personne dans la population, dans des postes influents, serait pro-annexion par les États-Unis. Qui on peut aller chercher? Hein? Qui sont nos intérêts sur place au Groenland? Je rappelle qu'il y a quand même une population très petite. On est moins de 100 000 habitants là, et que la plupart du Groenland, c'est glacé. Mais bien sûr, c'est pour les ressources qu'on veut ça. On dit pour des raisons stratégiques. Et là, on a dit, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens qu'il y ait des fuites. C'est pas patriotique. Alors, on n'est pas en train de dire que c'est pas vrai qu'il y a de l'espionnage. Et je rappelle que le Groenland, c'est un territoire autonome du Danemark. Le Danemark fait partie de quoi? De l'OTAN. Alors, on est en train d'espionner aussi sur un allié. Est-ce que tu vas me dire peut-être, c'est pas la première fois que des alliés s'espionnent entre eux. Hein? On a eu des cas dans les dernières années très médiatisées.
Les Américains écoutaient les conversations téléphoniques d'Angela Merkel quand elle était chancelière de l'Allemagne.
Alors, c'est pas la première fois, c'est peut-être pas ça le scandale, mais dans un contexte où il y a cette peur d'annexion et où Donald Trump a encore refusé de dire que d'utiliser l'armée, la force militaire pour annexer le Groenland n'était pas une possibilité, mais ça reste toujours avec quand même cette inquiétude. Et là, on sait que le Danemark a demandé à l'ambassadeur américain de venir lui parler pour rendre des comptes par rapport à tout ça. Alors, peut-être une petite escalade aussi à venir avec cette situation.
OK, et puis on va parler de cette situation extrêmement problématique là, entre l'Inde et le Pakistan. Ce sont deux puissances nucléaires. Le conflit a éclaté en début de semaine et là, ça s'envenime.
Oui, puis il y avait des tensions depuis un bon moment. On s'en est parlé très, très brièvement hier parce qu'il y avait eu un attentat terroriste qui avait fait 26 morts qui ciblait des Indiens, justement, dans le Cachemire indien parce que c'est un territoire qui est contesté. Hein. Le Pakistan voudra avoir le contrôle du Cachemire, l'Inde aussi, puis il y a une partie qui appartient à la Chine. Et là, il y a eu des morts, 26 morts, je viens de le dire, et on dit que le Pakistan est derrière ces attaques-là, qu'ils ont d'accord avec les groupes terroristes qui ont fait ces attaques-là, qui ont revendiqué les attaques. Alors, il y a eu des frappes qui ont eu lieu. L'Inde a frappé des cibles au Pakistan. On disait que c'est des cibles terroristes. Finalement, dans la version du Pakistan, il y a eu des civils qui ont été tués. Il y avait d'autres cibles. Le Pakistan, qui veut aussi répliquer, on a abattu des avions indiens, des chasseurs, entre autres. On n'a pas le même nombre de part et d'autre de combien d'avions ont été abattus. Il y a une escalade comme ça et c'est ça qui est inquiétant parce que c'est deux puissances nucléaires. C'est toujours une zone de tension, mais là, c'est la première fois, dit-on, qu'en 20 ans, on a une escalade comme ça et on a peur que ça se rende encore plus loin. Et là, on sait qu'entre autres, la Chine propose de faire de la médiation. Il y a l'Union européenne qui pourrait peut-être s'en mêler. Et là, il y a bien sûr Donald Trump aussi qui a dit, et je le cite, il dit, moi, je connais bien les deux, alors je pourrais peut-être... Il dit, en fait, ma position est la suivante, je m'entends bien avec les deux, je les connais très bien tous les deux et je veux les voir trouver une solution, je veux les voir s'arrêter et j'espère qu'ils pourront s'arrêter dès maintenant. Il a dit que c'était terrible et il a répété un peu les mêmes choses. Il dit, si je peux aider, je le ferai, je serai là. Alors, On verra ce qui se passe pour la suite, mais c'est, on n'a pas le temps, comme tu disais tout à l'heure en tour de table, de parler de ce conflit-là, mais ça reste un danger énorme pour déstabiliser la région.
Ouais, parce que ce